Chapitre 13. Je t'ai promis la suite de mes aventures, mais en vérité je suis si paresseuse à écrire qu'il faut que je t'aime comme la prunelle de mon œil et que je te sache plus curieuse qu'Ève ou Psyché pour me mettre devant une table avec une grande feuille de papier toute blanche qu'il faut rendre toute noire et un encrier plus profond que la mer dont chaque goutte se doit tourner en pensée ou du moins en quelque chose qui y ressemble, sans prendre la résolution subite de monter à cheval et de faire un bris d'abattu les 80 énormes lieues qui nous séparent pour t'aller compter de vive voix ce que je vais t'aligner en pieds de mouche imperceptibles afin de ne pas être effrayé moi-même du volume prodigieux de mon odyssée pittoresque. 80 lieues! Songez qu'il y a tout cet espace entre moi et la personne que j'aime le mieux au monde. J'ai bien envie de déchirer ma lettre et de faire sceller mon cheval. Mais je n'y pensais plus. Avec l'habit que je porte, je ne pourrais approcher de toi et reprendre la vie familière que nous menions ensemble lorsque nous étions petites filles bien naïves et bien innocentes. Si jamais je reprends des jupes, ce sera assurément pour ce motif. Je t'ai laissé, je crois, au départ de l'auberge où j'ai passé une si drôle de nuit et où ma vertu a pensé faire naufrage en sortant du port. Nous partîmes tous ensemble, allant du même côté. Mes compagnons s'extasièrent beaucoup sur la beauté de mon cheval, qui effectivement est de race, et l'un des meilleurs coureurs qui soit. Cela me grandit d'une demi-coudée au moins dans leur estime, et ils ajoutèrent à mon propre mérite tout le mérite de ma monture. Cependant, ils parurent craindre qu'elle ne fût trop fringante et trop fougueuse pour moi. Je leur dis qu'ils eussent à calmer leurs craintes et que pour leur montrer qu'il n'y avait point de danger, je lui fis faire plusieurs courbettes. Puis je franchis une barrière assez élevée et je pris le galop. La troupe essaya vainement de me suivre. Je tournai bride quand je fus assez loin et je revins à leur rencontre ventre à terre. Quand je fus près d'eux, je retins mon cheval lancé sur ses quatre pieds et je l'arrêtai court. Ce qui est, comme tu le sais ou comme tu ne le sais pas, un vrai tour de force. De l'estime, ils passèrent sans transition au plus profond respect. Ils ne se doutaient pas qu'un jeune écolier tout récemment sorti de l'université était aussi bon écuyer que cela. Cette découverte qu'ils firent me servit plus que s'ils avaient reconnu en moi toutes les vertus théologales et cardinales. Au lieu de me traiter en petit jeune homme, ils me parlèrent sur un ton de familiarité obséquieuse qui me fit plaisir. En quittant mes habits, je n'avais pas quitté mon orgueil. N'étant plus femme, je voulais être homme tout à fait, et ne pas me contenter d'en avoir seulement l'extérieur. J'étais décidé à avoir comme cavalier les succès auxquels je ne pouvais plus prétendre en qualité de femme. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de savoir comment je m'y prendrais pour avoir du courage. Car le courage et l'adresse aux exercices du corps sont les moyens par lesquels un homme fonde le plus aisément sa réputation. De l'époque, je sois timide pour une femme, et je n'ai pas ces pusillanimités imbéciles que l'on voit à plusieurs. Mais de là, cette brutalité insouciante et féroce qui fait la gloire des hommes, il y a loin encore. Et mon intention était de devenir un petit fier à bras, un tranche-montagne comme messieurs du bel air, afin de me mettre sur un bon pied dans le monde et de jouir de tous les avantages de ma métamorphose. Mais je vis par la suite que rien n'était plus facile et que la recette en était fort simple. Je ne te conterai pas, selon l'usage des voyageurs, que j'ai fait tant de lieux tel jour, que j'ai été de cet endroit à cet autre, que le rôti que j'ai mangé dans l'auberge du cheval blanc ou de la croix de fer était cru ou brûlé, que le vin était aigre et que le lit où j'ai couché avait des rideaux à personnages ou à fleurs. Ce sont des détails très importants et qu'il est bon de conserver à la postérité. Mais il faudra que la postérité s'en passe pour cette fois et que tu te résignes à ne pas savoir de combien de plats mon dîner était composé si j'ai bien ou mal dormi pendant le cours de mes voyages. Je ne te donnerai pas non plus une description exacte des différents paysages, des champs de blé, forêts, des cultures variées, des collines chargées de hameaux qui ont successivement passé devant mes yeux. Cela est facile à supposer. Prends un peu de terre, plante-y quelques arbres et quelques brins d'herbe, barbouille derrière cela un petit bout de ciel ou grisâtre ou bleu pâle, et tu auras une idée très suffisante du fond mouvant sur lequel se détachait notre petite caravane. Si dans ma première lettre je suis entré en quelques détails de ce genre, veuille bien m'excuser. Je n'y retomberai plus. Comme je n'étais jamais sorti, la moindre chose me semblait d'une importance énorme. Un des cavaliers, mon compagnon de lit, celui que j'avais été près de tirer par la manche dans la mémorable nuit dont je t'ai décrit tout au long les angoisses, se prit d'une belle passion pour moi et tint tout le temps son cheval à côté du mien. À cette exception près que je n'eusse pas voulu le prendre pour amant quand il m'eût apporté la plus belle couronne du monde, il ne me déplaisait pas autrement. Il était instruit et ne manquait ni d'esprit ni de bonne humeur. Seulement, quand il parlait des femmes, c'était avec un ton de mépris et d'ironie pour lequel je lui eusse très volontiers arraché les deux yeux de la tête, d'autant plus que, sous l'exagération, il y avait dans ce qu'il disait beaucoup de choses d'une vérité cruelle et dont mon habit d'homme me forçait de reconnaître la justice. Il m'invita d'une manière si pressante et à tant de reprises à venir avec lui voir une de ses sœurs sur la fin de son voyage et qui habitait en ce moment-là un vieux château avec une de ses tantes que je ne pus le lui refuser. Je fis quelques objections pour la forme car au fond il m'était aussi égal d'aller là qu'autre part et je pouvais tout aussi bien atteindre à mon but de cette façon que d'une autre. Et comme il me dit que je les désobligerais assurément beaucoup si je ne lui accordais pas au moins 15 jours, je lui répondis que je voulais bien et que c'était une chose convenue. À un embranchement du chemin, le compagnon, en montrant le jambage droit de cette Y naturelle, me dit « C'est par là ». Les autres nous donnèrent une poignée de main et s'enfuirent de l'autre côté. Après quelques heures de marche, nous arrivâmes au lieu de notre destination. Un fossé assez large, mais qui, au lieu d'eau, était rempli d'une végétation abondante et touffue, séparait le parc du grand chemin. Le revêtement était en pierre de taille, et dans les angles se hérissaient de gigantesques artichauts et des chardons de fer qui semblaient avoir poussé comme des plantes naturelles entre les blocs disjoints de la muraille. Un petit pont d'une arche traversait ce canal à sec et permettait d'arriver à la grille. Une haute allée d'ormes, arrondie en berceau et taillée à la vieille mode, se présentait d'abord à vous, et après l'avoir suivie quelque temps, on débouchait dans une espèce de rond-point. Ces arbres avaient plutôt l'air surannés que vieux. Ils paraissaient avoir des perruques et être poudrés à blanc. On ne leur avait réservé qu'une petite houppe de feuillage au sommet de la tête. Tout le reste était soigneusement émondé, en sorte qu'on les eût pris pour des plumets démesurés, plantés en terre de distance en distance. Après avoir traversé le rond-point couvert d'une herbe fine, soigneusement foulée au rouleau, il fallait encore passer sous une curieuse architecture de feuillages ornés de pots à feu, de pyramides et de colonnes d'ordre rustique, le tout pratiqué à grand renfort de ciseaux et de serpes dans un énorme massif de buis. Par différentes échappées, on apercevait à droite et à gauche tantôt un château de rocaille à demi ruiné, tantôt l'escalier rongé de mousse d'une cascade tarie, ou bien un vase ou une statue de nymphe et de berger, le nez et les doigts cassés, avec quelques pigeons perchés sur les épaules et sur la tête. Un grand parterre, dessiné à la française, s'étendait devant le château. Tous les compartiments étaient drassés avec du buis et du houx dans la plus rigoureuse symétrie. Cela avait bien autant l'air d'un tapis que d'un jardin. De grandes fleurs en parure de bal, le port majestueux, la mine sereine, comme des duchesses qui s'apprêtent à danser le menuet, vous faisaient au passage une légère inclination de tête. D'autres, moins polis apparemment, se tenaient raides et immobiles, pareils à des douairières qui font tapisserie. Des arbustes de toutes les formes possibles, si l'on en accepte toutefois leur forme naturelle, ronds, carrés, pointus, triangulaires, avec des caisses vertes et grises, semblaient marcher professionnellement au long de la grande allée et nous conduire par la main jusqu'aux premières marches du perron. Quelques tourelles, à demi engagées dans des constructions plus récentes, dépassaient la ligne de l'édifice de toute la hauteur de leur éteignoire d'ardoise, et leurs girouettes de tôle taillées en queue d'aronde témoignaient d'une assez honorable antiquité. Les fenêtres du pavillon du milieu donnaient toutes sur un balcon commun, orné d'une balustrade de fer extrêmement travaillée et d'une grande richesse, et les autres étaient entourés de cadres de pierre avec des chiffres et des nœuds sculptés. 4 à 5 grands chiens accoururent en aboyant à pleine gueule et en faisant des cabrioles prodigieuses. Ils cambalaient autour des chevaux et leur sautaient au nez. Ils firent surtout fête au cheval de mon camarade, à qui probablement ils allaient souvent rendre visite dans l'écurie ou qu'ils accompagnaient à la promenade. À tout ce tapage arriva enfin une espèce de valet, l'air moitié laboureur, moitié palefrenier, qui prit nos bêtes par la bride et les emmena. Je n'avais pas encore vu âme qui vive, si ce n'est une petite paysanne effarée et sauvage comme un daim, qui s'était sauvée à notre aspect et tapie dans un sillon derrière du chanvre, quoique nous l'eussions appelée à plusieurs reprises et que nous eussions fait notre possible pour la rassurer. Personne ne paraissait aux fenêtres. On eût dit que le château était inhabité ou du moins ne l'était que par des esprits, car le moindre bruit ne transpirait pas au dehors. Nous commencions à monter les premières marches du perron en faisant sonner nos éperons, car nous avions les jambes un peu alourdies, lorsque nous entendîmes à l'intérieur comme un bruit de portes ouvertes et fermées, comme si quelqu'un se hâtait à notre rencontre. En effet, une jeune femme parut sur le haut de la rampe, franchit en un bond l'espace qui la séparait de mon compagnon et se jeta à son cou. Celui-ci l'embrassa très affectueusement, et lui mettant le bras autour de la taille, il l'enleva presque et la porta ainsi jusqu'au palier. Savez-vous que vous êtes bien aimable et bien galant pour un frère, mon cher Alcibiade ? N'est-ce pas, monsieur, qui n'est pas tout à fait inutile que je vous avertisse que c'est mon frère, car en vérité, il n'en a pas trop les façons, dit la jeune belle en se retournant de mon côté. À quoi je répondis qu'on s'y pouvait méprendre et que c'était en quelque sorte un malheur que d'être son frère et de se trouver ainsi exclu de la catégorie de ses adorateurs. Oh, que pour moi, si je l'étais, je deviendrais à la fois le plus malheureux et le plus heureux cavalier de la terre. Ce qui la fit doucement sourire. Tout en causant ainsi, nous entrâmes dans une salle basse, dont les murs étaient décorés d'une tapisserie de haute lisse de Flandre. De grands arbres à feuilles aiguës y soutenaient des essaims d'oiseaux fantastiques. Les couleurs, altérées par le temps, produisaient de bizarres transpositions de nuances. Le ciel était vert, les arbres bleus de roi avec des lumières jaunes, et dans les draperies des personnages, l'ombre était souvent d'une couleur opposée au fond de l'étoffe. Les chairs ressemblaient à du bois, et les nymphes qui se promenaient sous les ombrages d'étain de la forêt avaient l'air de momies démaillotées. Leur bouche seule, dont la pourpre avait conservé sa teinte primitive, souriait avec une apparence de vie. Sur le devant se hérissaient de hautes plantes d'un vert singulier, avec de larges fleurs panachées dont les pistils ressemblaient à des aigrettes de paon. Des hérons à la mine sérieuse et pensive, la tête enfoncée dans les épaules, leur long bec reposant sur leur jabot rebondi, se tenaient philosophiquement debout sur une de leurs maigres pattes dans une eau dormante et noire, rayée de fils d'argent terni. Par les échappées du feuillage, on voyait dans le lointain de petits châteaux avec des tourelles pareilles à des poivrières et des balcons chargés de belles dames en grands atours qui regardaient passer des cortèges ou des chasses. Des rocailles capricieusement dentelées, d'où tombaient les torrents de laine blanche, se confondaient au bord de l'horizon avec des nuages pommelés. Une des choses qui me frappèrent le plus, ce fut une chasseresse qui tirait un oiseau. Ses doigts ouverts venaient de lâcher la corde et la flèche était partie, mais comme à cet endroit de la tapisserie se trouvait à une encoignure, la flèche était de l'autre côté de la muraille et avait décrit un grand crochet. Pour l'oiseau, il s'envolait sur ses ailes immobiles et semblait vouloir gagner une branche voisine. Cette flèche, empennée et armée d'une pointe d'or, toujours en l'air et n'arrivant jamais au but, faisait l'effet le plus singulier, était comme un triste et douloureux symbole de la destinée humaine, et plus je la regardais, plus je découvrais le sens mystérieux et sinistre. La chasseresse était là, debout, le pied tendu en avant, le jarret pilé, son œil aux paupières de soie tout grand ouvert, et ne pouvant plus voir sa flèche déviée de son chemin, et semblait chercher avec anxiété le phénicoptère aux plumes bigarrées qu'elle voulait abattre et qu'elle s'attendait à voir tomber devant elle, percée de part en part. Je ne sais si c'est une erreur de mon imagination, mais je trouvais à cette figure une expression aussi morne et aussi désespérée que celle d'un poète qui meurt sans avoir écrit ouvrage sur lequel il comptait pour fonder sa réputation et que le râle impitoyable saisit au moment où il essaie de le dicter. Oui, je te parle longuement de cette tapisserie, plus longuement à coup sûr que cela n'en vaut la peine, mais c'est une chose qui m'a toujours étrangement préoccupé, que ce monde fantastique créé par les ouvriers de haute lisse. J'aime passionnément cette végétation imaginaire, ces fleurs et ces plantes qui n'existent pas dans la réalité, ces forêts d'arbres inconnus où errent des licornes, des caprimules et des cerfs couleur de neige, avec un crucifix d'or entre leurs rameaux, habituellement poursuivi par des chasseurs à barbe rouge et en habit de sarrasin. Lorsque j'étais petite, je n'entrais guère dans une chambre tapissée sans en éprouver une espèce de frisson. J'osais à peine m'y remuer. Toutes ces figures debout contre la muraille, auxquelles l'ondulation de l'étoffe et le jeu de la lumière prêtent une espèce de vie fantastique, me semblaient autant d'espions occupés à surveiller mes actions pour en rendre compte en temps et lieu, et je n'eusse pas mangé une pomme ou un gâteau volé en leur présence. Que de choses ces graves personnages auraient à dire, s'ils pouvaient ouvrir leurs lèvres de fil rouge et si les sons pouvaient pénétrer dans la conque de leur oreille brodée. De combien de meurtres, de trahisons, d'adultères infâmes et de monstruosités de toutes sortes ne sont-ils pas les silencieux et impassibles témoins? Mais laissons-la la tapisserie et revenons à notre histoire. Alcibiade, je vais faire avertir ma tante de votre arrivée.
Oh, cela n'est pas pour presser, ma sœur, asseyons-nous d'abord et causons un peu. Je vous présente un cavalier qui a nom Théodore de Cérane et qui passera quelque temps ici. Je n'ai pas besoin de vous recommander de lui faire bon accueil. Il se recommande assez lui-même.
Je dis ce qu'il a dit, hein. Ne va pas intempestivement m'accuser de fatuité. La belle fit un petit mouvement de tête, comme pour donner son assentiment, et on parla d'autre chose. Tout en faisant la conversation, je la regardais en détail, et je l'examinais plus attentivement que je n'avais pu le faire jusqu'alors. Elle pouvait avoir 23 ou 24 ans, et son deuil lui allait on ne peut mieux. À vrai dire, elle n'avait pas l'air fort lugubre ni fort désolée, et je doute qu'elle eût mangé dans sa soupe les cendres de son mausolée en matière de rhubarbe. Je ne sais si elle avait pleuré abondamment son époux défunt. Si elle avait fait, en tout cas, il n'y paraissait guère, et le joli mouchoir de batiste qu'elle tenait à la main était aussi parfaitement sec que possible. Ses yeux n'étaient pas rouges, mais au contraire, les plus clairs et les plus brillants du monde, et l'on eût en vain cherché sur ses joues le sillon par où avaient passé les larmes. Il n'y avait en vérité que deux petites fossettes creusées par l'habitude de sourire, et pour une veuve, il est juste de dire qu'on lui voyait très fréquemment les dents, ce qui n'était certainement pas un spectacle désagréable, car elle les avait petites et bien rangées. Je l'estimais, tout d'abord, de ne s'être pas cru obligé, parce qu'il lui était mort quelque mari, de se pocher les yeux et de se rendre le nez violet. Je lui sus bon gré aussi de ne prendre aucune petite mine dolente et de parler naturellement, avec sa voix sonore et argentine, sans traîner les mots et entrecouper ses phrases de vertueux soupirs. Cela me parut de fort bon goût. Je la jugeais tout d'abord une femme d'esprit, ce qu'elle est en effet. Elle était bien faite, le pied et la main très convenables. Son costume noir était arrangé avec toute la coquetterie possible et si gaiement que le lugubre de la couleur disparaissait complètement et qu'elle eût pu aller au mont, au bal ainsi habillée, sans que personne le trouvât étrange. Si jamais je me marie et que je devienne veuve, je lui demanderai un patron de sa robe, car elle lui va comme un ange. Après quelques propos, nous montâmes chez la vieille tante. Nous la trouvâmes assise dans un grand fauteuil à dos renversé, avec un petit tabouret sous son pied, et à côté d'elle un vieux chien, tout chassieux et tout renfrogné, qui leva son museau noir à notre arrivée et nous accueillit par un grognement très peu amical. Je n'avais jamais envisagé une vieille femme qu'avec horreur. Ma mère est morte toute jeune. Sans doute, si je l'avais vue lentement vieillir et que j'eusse vu ses traits se déformer dans une progression imperceptible, je m'y fusse paisiblement habitué. Dans mon enfance, je n'ai été entouré que de figures jeunes et riantes, en sorte que j'ai gardé une antipathie insurmontable pour les vieilles gens. Aussi je frissonnais quand la belle veuve toucha de ses lèvres pures et vermeilles le front jaune de la douairière. C'est une chose que je ne saurais prendre sur moi. Je sais que lorsque j'aurai 60 ans, je serai ainsi. C'est égal, je n'y puis rien faire. Et je prie Dieu qu'il me fasse mourir jeune comme ma mère. Cependant, cette vieille avait conservé de son ancienne beauté quelques linéaments simples et majestueux qui l'empêchaient de tomber dans cette laideur de pomme cuite qui est le partage des femmes qui n'ont été que jolies ou simplement fraîches. Ses yeux, quoique terminés à leurs angles par une patte de pli et recouverts d'une paupière large et molle, avaient encore quelques étincelles de leur feu primitif, et l'on voyait qu'ils avaient dû, sous le règne de l'autre roi, lancer des éclairs de passion à éblouir. Son nez mince et maigre, un peu recourbé en bec d'oiseau de proie, donnait à son profil une sorte de grandeur sérieuse que tempérait le sourire indulgent de sa lèvre autrichienne, peinte de carmin, selon la mode du siècle passé. Son costume était antique sans être ridicule, et s'harmonisait parfaitement avec sa figure. Elle avait pour coiffure une simple cornette blanche, avec une petite dentelle. Ses mains, longues et amaigries, qu'on devinait avoir été fort belles, flottaient dans des mitaines sans pouces et sans doigts, une robe feuille morte, brochée de ramages d'une couleur plus foncée, une mante noire et un tablier de pou de soie, gorge de pigeon, complétaient son ajustement. Les vieilles femmes devraient toujours s'habiller ainsi et respecter assez leur mort prochaine pour ne point se harnacher de plumes, de guirlandes de fleurs, de rubans de couleur tendres et de mille affiquets qui ne font qu'à l'extrême jeunesse. Elles ont beau faire des avances à la vie n'en veut plus. Elles en sont pour leurs frais, comme ces courtisanes surannées qui se plâtrent de rouge et de blanc et que les muletiers ivres repoussent sur la borne avec des injures et des coups de pied. La vieille dame nous reçut avec cette aisance et cette politesse exquise qui est le partage des gens qui ont suivi l'ancienne cour et dont le secret semble se perdre de jour en jour, comme tant d'autres beaux secrets, et d'une voix qui, bien que cassée et chevrotante, avait encore une grande douceur. Je parus lui plaire beaucoup, et elle me regarda très longtemps et très attentivement, avec un air fort touché. Une larme se forma dans le coin de son œil et descendit lentement dans une de ses grandes rides où elle se perdit et se sécha. Elle me pria de l'excuser et me dit que je ressemblais fort à un fils qu'elle avait autrefois et qui avait été tué à l'armée. Tout le temps que je demeurai au château, je fus, à cause de cette ressemblance réelle ou imaginaire, traité par la bonne dame avec une bienveillance extraordinaire et toute maternelle. J'y trouvai plus de charme que je ne l'aurais cru d'abord, car le plus grand plaisir que les personnes qui sont d'âge me puissent faire, c'est de ne me parler jamais et de s'en aller quand j'arrive. Je ne te conterai pas en détail, et jour par jour, ce que j'ai fait à R. Si je me suis un peu étendu sur tout ce commencement, et si je t'ai esquissé avec quelque soin ces deux ou trois physionomies, soit de personnes, soit de lieux, c'est qu'il m'arriva là des choses très singulières, et pourtant fort naturelles, et que j'aurais dû prévoir en prenant des habits d'homme. Ma légèreté naturelle me fit faire une imprudence, dont je me repens cruellement car elle a apporté sur une bonne et belle âme un trouble que je ne puis apaiser sans découvrir ce que je suis et me compromettre gravement. Pour avoir parfaitement l'air d'un homme et me divertir un peu, je ne trouvais rien de mieux que de faire la cour à la sœur de mon ami. Cela me paraissait très drôle de me précipiter à quatre pattes lorsqu'elle laissait tomber son gant et de le lui rendre en faisant des révérences prosternées, de me pencher au dos de son fauteuil avec un petit air adorablement langoureux et de lui couler dans le tuyau de l'oreille mille et un madrigaux, on ne saurait plus charmant. Dès qu'elle voulait passer d'une chambre à une autre, je lui présentais gracieusement la main. Si elle montait à cheval, je lui tenais l'étrier, et à la promenade, je marchais toujours à côté d'elle. Le soir, je lui faisais la lecture et je chantais avec elle. Bref, je m'acquittais avec une scrupuleuse exactitude de tous les devoirs d'un cavalier servant. Je faisais toutes les mines que j'avais vues faire aux amoureux, ce qui m'amusait et me faisait rire comme une vraie folle que je suis, lorsque je me trouvais seul dans ma chambre et que je réfléchissais à toutes les impertinences que je venais de débiter du ton le plus sérieux du monde. Alcibiade et la vieille marquise paraissaient voir cette intimité avec plaisir et nous laissaient fort souvent tête à tête. Je regrettais quelquefois de n'être pas véritablement un homme pour en mieux profiter. Si je l'avais été, il n'aurait tenu qu'à moi, car notre charmante veuve semblait avoir parfaitement oublié le défunt, ou, si elle s'en souvenait, elle eût été volontiers infidèle à sa mémoire. Ayant commencé sur ce ton, je ne pouvais guère honnêtement reculer, et il était fort difficile de faire une retraite avec armes et bagages. Je ne pouvais cependant pas non plus dépasser une certaine limite, et je ne savais guère être aimable qu'en parole. J'espérais attraper ainsi la fin du mois que je devais passer à R, et me retirer avec promesse de revenir, sauf à n'en rien faire. Je croyais qu'à mon départ, la belle se consolerait, et en ne me voyant plus, m'aurait bientôt oublié. Mais en me jouant, j'avais éveillé une passion sérieuse, et les choses tournèrent autrement. Ce qui vous retrace une vérité bien connue depuis longtemps, à savoir qu'il ne faut jamais jouer ni avec le feu, ni avec l'amour. Avant de m'avoir vu, Rosette ne connaissait pas encore l'amour. Mariée, fort jeune, à un homme beaucoup plus vieux qu'elle, elle n'avait pu sentir pour lui qu'une espèce d'amitié filiale. Sans doute, elle avait été courtisée, mais elle n'avait pas eu d'amant, tout extraordinaire que la chose puisse paraître. Ou les galants qui lui avaient rendu des soins étaient de minces séducteurs, ou, ce qui est plus probable, son heure n'était pas encore sonnée. Les hobereaux et les gentillâtres de province, parlant toujours de fumée, de laisse, de ragots et d'andouillés, d'allali et de serdicors, et entremêlant le tout de charades d'almanach et de madrigaux moisis de vétusté, n'étaient assurément guère faits pour lui convenir, et sa vertu n'avait pas eu beaucoup à se débattre pour ne leur point céder. D'ailleurs, la gaieté et l'enjouement naturel de son caractère la défendaient suffisamment contre l'amour, cette molle passion qui a tant de prise sur les rêveurs et les mélancoliques. L'idée que son vieux Titon avait pu lui donner de la volupté devait être assez médiocre pour ne la point jeter en de grandes tentations d'en essayer encore. Et elle jouissait doucement du plaisir d'être veuve de si bonne heure et d'avoir encore tant d'années à être jolie. Mais à mon arrivée, tout cela changea bien. Je crus d'abord que, si je ne fusse tenu avec elle entre les bandes étroites d'une froide et exacte politesse, elle n'aurait pas fait autrement attention à moi. Mais en vérité, je fus obligé de reconnaître par la suite qu'il n'en eût été ni plus ni moins, et que cette supposition, quoique fort modeste, était purement gratuite. Hélas, rien ne peut détourner l'ascendant fatal, et nul ne saurait éviter l'influence bienfaisante ou maligne de son étoile. La destinée de Rosette était de n'aimer qu'une fois dans sa vie, et d'un amour impossible. Il faut qu'elle la remplisse, et elle la remplira. J'ai été aimé au Graciosa, et c'est une douce chose, quoique je ne l'ai été que par une femme, et que dans un amour ainsi détourné, il y eut quelque chose de pénible qui ne se doit pas trouver dans l'autre. Oh, une bien douce chose! Quand on s'éveille la nuit, et qu'on se relève sur son coude, se dire « Quelqu'un pense ou rêve à moi, on s'occupe de ma vie. Un mouvement de mes yeux ou de ma bouche fait la joie ou la tristesse d'une autre créature. Une parole que j'ai laissée tomber au hasard est recueillie avec soin, commentée et retournée des heures entières. Je suis le pôle où se dirige un aimant inquiet. Ma prunelle est un ciel, ma bouche est un paradis plus souhaité que le véritable. Je mourrais, une pluie tiède de larmes chaufferait ma cendre, mon tombeau serait plus fleuri qu'une corbeille de noces. Si j'étais en danger, quelqu'un se jetterait entre la pointe de l'épée et ma poitrine, on se sacrifierait pour moi. C'est beau, je ne sais pas ce que l'on peut souhaiter le plus au monde. » Et cette pensée me faisait un plaisir que je me reprochais, car pour tout cela je n'avais rien à donner, et j'étais dans la position d'une personne pauvre qui accepte des présents d'un ami riche et généreux sans espoir de pouvoir jamais lui en faire à son tour. Cela me charmait d'être adoré ainsi, et par instants je me laissais faire avec une singulière complaisance. À force d'entendre tout le monde m'appeler monsieur et de me voir traité comme si j'étais un homme, j'oubliais insensiblement que j'étais femme. Mon déguisement me semblait mon habit naturel, et il ne me souvenait pas d'en avoir jamais porté d'autre. Je ne songeais plus que je n'étais au bout du compte qu'une petite évaporée qui s'était fait une épée de son aiguille et une paire de culottes en coupant une de ses jupes. Beaucoup d'hommes sont plus femmes que moi. Je n'ai guère d'une femme que la gorge, quelques lignes plus rondes et des mains plus délicates. La jupe est sur mes hanches et non dans mon esprit. Il arrive souvent que le sexe de l'âme ne soit point pareil à celui du corps, et c'est une contradiction qui ne peut manquer de produire beaucoup de désordre. Moi, par exemple, si je n'avais pas pris cette résolution, folle en apparence, mais très sage au fond, de renoncer aux habits d'un sexe qui n'est le mien que matériellement et par hasard, j'eusse été fort malheureuse. J'aime les chevaux, l'escrime, tous les exercices violents. Je me plais à grimper et à courir çà et là comme un jeune garçon. Il m'ennuie de me tenir assise, les deux pieds joints, les coudes collés au flanc, de baisser modestement les yeux, de parler d'une petite voix flûtée, mielleuse, et de faire passer 10 millions de fois un bout de laine dans les trous d'un canevas. Je n'aime pas obéir le moins du monde, et le mot que je dis le plus souvent est « je veux ». Sous mon front poli et mes cheveux de soie, remuent de fortes et viriles pensées, toutes les précieuses niaiseries qui séduisent principalement les femmes ne m'ont jamais que médiocrement touché, et comme Achille déguisé en jeune fille, je laisserai volontiers le miroir pour une épée. La seule chose qui me plaise des femmes, c'est leur beauté. Malgré les inconvénients qui résultent, je ne renoncerai pas volontiers à ma forme, quoique mal assortie à l'esprit qu'elle enveloppe. C'était quelque chose de neuf et de piquant qu'une pareille intrigue, et je m'en serais fort amusé si elle n'avait pas été prise au sérieux par la pauvre Rosette. Elle se mit à m'aimer avec une naïveté et une conscience admirables, de toute la force de sa belle et bonne âme, de cet amour que les hommes ne comprennent pas et dont ils ne sauraient se faire même une lointaine idée, délicatement et ardemment, comme je souhaitais d'être aimé et comme j'aimerais si je rencontrais la réalité de mon rêve. Quel beau trésor perdu! Quelle perle blanche et transparente que jamais les plongeurs n'en trouveront dans les crins de la mer! Quelles suaves haleines! Quels doux soupirs dispersés dans les airs et qui auraient pu être recueillis par des lèvres amoureuses et pures! Cette passion aurait pu rendre un jeune homme si heureux. Tant d'infortunés, beaux, charmants, bien doués, pleins de cœur et d'esprit, ont vainement supplié à genoux d'insensibles et mornes idoles. Tant d'âmes tendres et bonnes se sont jetées de désespoir dans les bras des courtisanes ou se sont éteintes silencieusement comme des lampes dans des tombeaux et qui auraient été sauvées de la débauche et de la mort par un sincère amour. Quelle bizarrerie dans la destinée humaine! Et que le hasard est un grand railleur! Ce que tant d'autres avaient désiré ardemment me venait à moi qui n'en voulais pas et ne pouvais pas en vouloir. Il prend fantaisie à une jeune fille capricieuse de courir le pays en habit d'homme pour savoir un peu à quoi s'en tenir sur le compte de ses amants futurs. Elle couche dans une auberge avec un digne frère qui l'amène par le bout du doigt devant sa sœur, qui n'a rien de plus pressé que d'en devenir amoureuse comme une chatte, comme une colombe, comme tout ce qu'il y a d'amoureux et de langoureux au monde. Il est bien évident que si j'eusse été un jeune homme, et que cela eût pu me servir à quelque chose, il y en eût été tout autrement, et que la dame m'eût prise en horreur. La fortune est ma sœur, donner des pantoufles à ceux qui ont des jambes de bois, et des gants à ceux qui n'ont pas de main. L'héritage qui aurait pu vous faire vivre à votre aise vous vient ordinairement le jour de votre mort. J'allais quelquefois, non pas aussi souvent que l'aurait voulu, voir Rosette dans sa ruelle. Quoique habituellement elle ne reçût que debout, cependant, ma faveur, on passait par là-dessus. On eût passé par-dessus bien d'autres choses, si j'eusse voulu. Mais, comme on dit, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a, et ce que j'avais n'eût pas été d'une grande utilité à Rosette. Elle me tendait sa petite main à baiser. J'avoue que je ne la baisais pas sans quelque plaisir, car elle est fort douce, très blanche, exquisement parfumée, moellement attendrie par une naissante moiteur. Je la sentais frissonner et se contracter sous mes lèvres, dont je prolongeais malicieusement la pression. Alors Rosette, tout émue et d'un air suppliant, tournait vers moi ses longs yeux chargés de volupté et inondés d'une lueur humide et transparente, puis elle laissait retomber sur son oreiller sa jolie tête qu'elle avait un peu soulevée pour me mieux recevoir. Je voyais, sous le drap, onder sa gorge inquiète et tout son corps s'agiter brusquement. Certes, quelqu'un qui eût été en état d'oser eût pu oser beaucoup, et à coup sûr, on lui était reconnaissant de ses témérités et on lui sut gré d'avoir sauté quelques chapitres du roman. Je restai là une heure ou deux avec elle, ne quittant pas sa main que j'avais reposée sur la couverture. Nous faisions des causeries interminables et charmantes, car bien que Rosette fût très préoccupée de son amour, elle se croyait trop sûre du succès pour ne pas garder presque toute sa liberté et son enjouement d'esprit. De temps à autre seulement, sa passion jetait sur sa gaieté un voile transparent de douce mélancolie qui la rendait encore plus piquante. En effet, il eût été inouï qu'un jeune débutant, comme j'en avais les apparences, ne se trouva pas fort heureux d'une telle bonne fortune et n'en profita pas de son mieux. Rosette, effectivement, n'était point faite de façon à rencontrer de grandes cruautés, et n'en sachant pas davantage à mon endroit, elle comptait sur ses charmes et sur ma jeunesse, à défaut de mon amour. Cependant, comme cette situation commençait à se prolonger un peu au-delà des bornes naturelles, elle en prit de l'inquiétude, et c'était à peine si un redoublement de phrases flatteuses et de belles protestations lui pouvait redonner sa première sécurité. Deux choses l'étonnaient en moi, et elle remarquait dans ma conduite des contradictions qu'elle ne pouvait concilier. C'était ma chaleur de parole et ma froideur d'action. « Tu le sais mieux que personne, ma chère Graciosa. Mon amitié a tous les caractères d'une passion. Elle est subite, ardente, vive, exclusive. Elle a de l'amour jusqu'à la jalousie. Et j'avais pour Rosette une amitié presque pareille à celle que j'ai pour toi. On pouvait se tromper à moins. Rosette s'y trompa d'autant plus complètement que l'habit que je portais ne lui permettait guère d'avoir une autre idée. Comme je n'ai encore aimé aucun homme, l'excès de ma tendresse s'est en quelque sorte épanché dans mes amitiés avec les jeunes filles et les jeunes femmes. J'y ai mis le même emportement et la même exaltation que je mets à tout ce que je fais, car il m'est impossible d'être modéré en quelque chose, et surtout ce qui regarde le cœur. Il n'y a à mes yeux que deux classes de gens, les gens que j'adore et ceux que j'exècre. Les autres sont pour moi comme s'ils n'étaient pas. Je pousserai mon cheval sur eux comme sur le grand chemin. Ils ne diffèrent pas dans mon esprit des pavés ni des bornes. Je suis naturellement expansive et j'ai de manière très caressante. Quelquefois, oubliant la portée qu'avaient de telles démonstrations, tout en me promenant avec Rosette, je lui passais le bras autour du corps, comme je le faisais lorsque nous nous promenions ensemble dans l'allée solitaire au bout du jardin de mon oncle. Ou bien, penché au dos de son fauteuil pendant qu'elle brodait, je roulais sur mes doigts les petits poils follets qui blondissaient sur sa nuque ronde et potelée, ou je polissais du revers de la main ses beaux cheveux tendus par le peigne, et je leur redonnais du lustre, ou bien c'était quelque autre de ces billardises que tu sais m'être habituelle avec mes chers amis. Elle se donnait bien de garde d'attribuer ses caresses à une simple amitié. L'amitié, comme on la conçoit ordinairement, ne va pas jusque-là. Mais voyant que je n'allais pas plus loin, elle s'étonnait intérieurement et ne savait trop que penser. Elle s'arrêta à ceci, que c'était une trop grande timidité de ma part, provenant de mon extrême jeunesse et du manque d'habitude dans les commerces amoureux, et qu'il me fallait encourager par toutes sortes d'avances et de bontés. En conséquence, elle avait soin de me ménager une foule d'occasions de tête-à-tête dans des endroits propres à m'enhardir par leur solitude et leur éloignement de tout bruit et de tout opportun. Elle me fit faire plusieurs promenades dans les grands bois pour essayer si la rêverie voluptueuse et les désirs amoureux qu'inspirent aux âmes tendres l'ombre touffue et propice des forêts ne pourraient pas se détourner à son profit. Un jour, après m'avoir fait errer longtemps à travers un parc très pittoresque qui s'étendait au loin derrière le château et dont je ne connaissais que les parties qui avoisinaient les bâtiments, elle m'amena par un petit sentier capricieusement contourné et bordé de sureaux et de noisetiers jusqu'à une cabane rustique, une espèce de charbonnière, bâtie en rondins posés transversalement, avec un toit de roseaux et une porte grossièrement faite de 5 ou 6 pièces de bois à peine rabotées, dont les interstices étaient étouffés de mousse et de plantes sauvages. Tout à côté, entre les racines verdies de grands frênes à l'écorce d'argent, tachetées çà et là de plaques noires, jaillissait une forte source qui, à quelques pas plus loin, tombait par 2 gradins de marbre dans un bassin tout rempli de cressons plus verts que l'émeraude. Aux endroits où il n'y avait pas de cressons, on apercevait un sable fin et blanc comme la neige. Cette eau était d'une transparence de cristal et d'une froideur de glace. Sortant de terre tout à coup et n'étant jamais effleurée par le plus faible rayon de soleil, sous ses ombrages impénétrables, elle n'avait pas le temps de s'attiédir ni de se troubler. Malgré leur crudité, j'aime ces eaux de source, et voyant celle-là si limpide, je ne pus résister au désir d'en boire. Je me penchai, et j'en puisai à plusieurs reprises, dans le creux de la main n'ayant pas d'autre vase à ma disposition. Chapitre 14. Rosette témoigna, pour apaiser sa soif, le désir de boire aussi de cette eau, et me pria de lui en apporter quelques gouttes, n'osant pas, disait-elle, se pencher autant qu'il le fallait pour y atteindre. Je plongeai mes deux mains aussi exactement jointes que possible dans la claire fontaine, ensuite je les haussai comme une coupe jusqu'aux lèvres de Rosette, et je l'étais ainsi jusqu'à ce qu'elle eût tari l'eau qu'elle refermait, ce qui ne fut pas long car il y en avait fort peu, et ce peu dégouttait à travers mes doigts si serrés que je l'étinsse. Cela faisait un fort joli groupe, et il eût été désiré qu'un sculpteur se fût trouvé là pour en tirer le crayon. Quand elle eut presque achevé, ayant ma main près de ses lèvres, elle ne put s'empêcher de la baiser, de manière cependant à ce que je fusse croire que c'était une aspiration pour épuiser la dernière perle d'eau amassée dans ma paume, mais je ne m'y trompais pas, et la charmante rougeur qui lui couvrit subitement le visage la dénonçait assez. Elle reprit mon bras et nous nous dirigeâmes du côté de la cabane. La belle marchait ainsi près de moi que possible et se penchait en me parlant de façon à ce que sa gorge portât entièrement sur ma manche. Position extrêmement savante et capable de trouver tout autre moi. J'en sentais parfaitement le contour ferme et pur et la douce chaleur. De plus, j'y pouvais remarquer une ondulation précipitée qui, fût-elle affectée ou vraie, n'en était pas moins flatteuse et encourageante. Nous arrivâmes ainsi à la porte de la cabane que j'ouvris d'un coup de pied. Je ne m'attendais assurément pas au spectacle qui s'offrit à mes yeux. Je croyais que la hutte était tapissée de joncs avec une natte par terre et quelques escabeaux pour se reposer. Point du tout. C'était un boudoir meublé avec toute l'élégance inimaginable. Les dessus de porte et de glace représentaient les scènes les plus galantes des métamorphoses d'Ovide. Salmacis et Hermaphrodite, Vénus et Adonis, Apollon et Daphné et autres amours mythologiques en camailleux lilas clair. Les trumeaux étaient faits de roses pompons, sculptés fort mignonnement, et de petites marguerites dont, par un raffinement de luxe, les cœurs seulement étaient dorés et les feuilles argentées. Une ganse d'argent bordait tous les meubles et relevait une tenture du bleu le plus doux qui se puisse trouver, et merveilleusement propre à faire ressortir la blancheur et l'éclat de la peau. Mille charmantes curiosités chargeaient la cheminée, les consoles et les étagères, et il y avait un luxe de duchesses, de chaises longues et de sofas, qui montrait suffisamment que ce réduit n'était pas destiné à des occupations bien austères, et qu'assurément l'on ne s'y macérait pas. Une belle pendule rocaille, posée sur un pied douche richement incrusté, faisait face à un grand miroir de Venise et s'y répétait avec des brillants et des reflets singuliers. Du reste, elle était arrêtée, comme si c'eût été une chose superflue que de marquer les heures dans un lieu destiné à les oublier. Je dis à Rosette que ce raffinement de luxe me plaisait, que je trouvais qu'il était de fort bon goût de cacher la plus grande recherche sous une apparence de simplicité et que j'approuvais fort qu'une femme eût des jupons brodés, des chemises garnies de matine avec un par-dessus de simple toile. C'était une attention délicate pour l'amant qu'elle avait ou qu'elle pouvait avoir, dont on ne saurait être assez reconnaissant et qu'à coup sûr, il valait mieux mettre un diamant dans une noix qu'une noix dans une boîte d'or. Rosette, pour me prouver qu'elle était de mon avis, releva un peu sa robe et me fit voir le bord d'un jupon très richement brodé de grandes fleurs et de feuillages. Il n'aurait tenu qu'à moi d'être admise au secret de plus grande magnificence intérieure, mais je ne demandais pas à voir si la splendeur de la chemise répondait à celle de la jupe. Il est probable que le luxe n'en était pas moindre. Rosette laissa retomber le pli de sa robe, fâchée de n'avoir pas montré davantage. Cependant, cette exhibition lui avait servi à faire voir le commencement d'un mollet parfaitement tourné et donnant les meilleures idées ascensionnelles. Cette jambe qu'elle tendait en avant pour mieux étaler sa jupe était vraiment d'une finesse et d'une grâce miraculeuse dans son bas de soie gris de perles bien juste et bien tiré, et la petite mule à talons ornés d'une touffe de ruban qui la terminait ressemblait à la pantoufle de verre chaussée par Cendrillon. Je lui en fis de très sincères compliments et je lui dis que je ne connaissais guère de plus jolies jambes et de plus petits pieds et que je ne pensais pas qu'il fût possible de les avoir mieux faits. À quoi elle répondit, avec une franchise, une ingénuité, toute charmante et toute spirituelle, C'est vrai. Puis elle fut à un panneau pratiqué dans le mur. Elle en tira un ou deux flacons de liqueur et quelques assiettes de confiture et de gâteaux, posa le tout sur un petit guéridon et se vint asseoir près de moi dans une dormeuse assez étroite, de sorte que je fus obligé, pour n'être point trop gêné, de lui passer le bras derrière la taille. Comme elle avait les deux mains libres et que je n'avais précisément que la gauche dont je me pusse servir, elle me versait elle-même à boire et mettait des fruits, des sucreries sur mon assiette. Bientôt même, voyant que je n'y prenais assez maladroitement, elle me dit « Allons, laissez cela. Je m'en vais vous donner la béquée, petit enfant, puisque vous ne savez pas manger toute seule. » Et elle me portait elle-même les morceaux à la bouche et me forçait à les avaler plus vite que je ne voulais, en les poussant avec ses jolis doigts, absolument comme on fait aux oiseaux que l'on empâte, ce qui la faisait beaucoup rire. Je ne pus guère me dispenser de rendre à ses doigts le baiser qu'elle avait donné tout à l'heure à la paume de mes mains, et comme pour m'en empêcher, mais au fond pour me fournir l'occasion de mieux appuyer mon baiser, elle me frappa la bouche à deux ou trois reprises avec le revers de sa main. Elle avait bu deux ou trois doigts de crème des Barbades avec un verre de vin des Canaries et moi à peu près autant. Ce n'était pas beaucoup, assurément, mais il y en avait assez pour égayer deux femmes habituées à ne boire que de l'eau à peine trempée. Cosette se laissait aller en arrière et se renversait sur mon bras très amoureusement. Elle avait jeté son mantelet et l'on voyait le commencement de sa gorge tendue et mise en arrêt par cette position cambrée. Le ton en était d'une délicatesse et d'une transparence ravissante. La forme, d'une finesse et en même temps d'une solidité merveilleuse. Je la contemplais quelque temps avec une émotion et un plaisir indéfinissables. Et cette réflexion me vint que les hommes étaient plus favorisés que nous dans leurs amours, que nous leur donnions à posséder les plus charmants trésors et qu'ils n'avaient rien de pareil à nous offrir. Quel plaisir ce doit être de parcourir de ses lèvres cette peau si fine et si polie et ses contours si bien arrondis qui semblent aller au-devant du baiser et le provoquer, ses chairs satinées, ces lignes ondoyantes et qui s'enveloppent les unes dans les autres, cette chevelure soyeuse et si douce à toucher, quel motif inépuisable de délicate volupté que nous n'avons pas avec les hommes. Nos caresses à nous ne peuvent guère être que passives. Et cependant, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Voilà des remarques que je n'eus autres sûrement pas faites l'année passée. Et j'aurais bien pu voir toutes les gorges et toutes les épaules du monde sans m'inquiéter si elles étaient d'une bonne ou mauvaise forme. Mais depuis que j'ai quitté les habits de mon sexe et que je vis avec les jeunes gens, il s'est développé en moi un sentiment qui m'était inconnu, le sentiment de la beauté. Les femmes en sont habituellement privées, je ne sais trop pourquoi, car elles sembleraient d'abord plus à même d'en juger que les hommes, mais comme ce sont elles qui la possèdent et que la connaissance de soi-même est la plus difficile de toutes, il n'est pas étonnant qu'elles n'y entendent rien. Ordinairement, si une femme trouve une autre femme jolie, on peut être sûr que cette dernière est fort laide et que pas un homme n'y fera attention. En revanche, toutes les femmes dont les hommes vantent la beauté et la grâce sont trouvées unanimement abominables et minaudières par tout le troupeau enjuponné. Ce sont des cris et des clameurs à n'en plus finir. Si j'étais ce que je parais être, je ne prendrais pas d'autre guide dans mes choix et la désapprobation des femmes me serait un certificat de beauté suffisant. Maintenant j'aime et je connais la beauté. Les habits que je porte me séparent de mon sexe et m'ôte toute espèce de rivalité. Je suis à même d'en juger mieux qu'un autre. Je ne suis plus une femme, mais je ne suis pas encore un homme. Et le désir ne m'aveuglera pas jusqu'à prendre des mannequins pour des idoles. Je vois froidement et sans prévention, ni pour ni contre, et ma position est aussi parfaitement désintéressée que possible. La longueur et la finesse des cils, la transparence des tempes, la limpidité du cristallin, les enroulements de l'oreille, le ton et la qualité des cheveux, l'aristocratie des pieds et des mains, l'emmanchement plus ou moins délié des jambes et des poignets, mille choses à quoi je ne prenais pas garde, qui constituent la réelle beauté, éprouvent la pureté de race, me guident dans mes appréciations et ne me permettent guère de me tromper. Je crois qu'on pourrait accepter les yeux fermés une femme dont j'aurais dit « En vérité, elle n'est pas mal. » Par une conséquence toute naturelle, je me connais beaucoup mieux en tableau qu'auparavant, et quoique je n'aie des maîtres qu'une teinture fort superficielle, il serait difficile de me faire passer un mauvais ouvrage pour bon. Je trouve à cette étude un charme singulier et profond, car, comme toute chose au monde, la beauté morale ou physique veut être étudiée et ne se laisse pas pénétrer tout d'abord. Mais revenons à Rosette. De ce sujet à elle, la transition n'est pas difficile, et ce sont deux idées qui s'appellent l'une l'autre. Comme je l'ai dit, la belle était renversée sur mon bras et sa tête portait contre mon épaule. L'émotion nuançait ses belles joues d'une tendre couleur rose que rehaussait admirablement le noir foncé d'une petite mouche très coquettement posée. Ses dents luisaient à travers son sourire comme des gouttes de pluie au fond d'un pavot, et ses cils, abaissés à demi, augmentaient encore l'éclat humide de ses grands yeux. Un rayon de jour faisait jouer mille brillants métalliques sur sa chevelure soyeuse et moirée, dont quelques boucles s'étaient échappées et roulaient en forme de repentir au long de son cou rond et potelé dont elle faisait valoir la chaude blancheur. Quelques petits cheveux follets, plus mutins que les autres, se détachaient de la masse et se contournaient en spirales capricieuses, dorées de reflets singuliers, et qui, traversées par la lumière, prenaient toutes les nuances du prisme. On eût dit de ces fils d'or qui entourent la tête des vierges dans les anciens tableaux. Nous gardions toutes les deux le silence, et je m'amusais à suivre, sous la transparence nacrée de ses tempes, ses petites veines bleues d'azur et la molle et insensible dégradation du duvet à l'extrémité de ses sourcils. La belle semblait se recueillir en elle-même et se bercer dans des rêves de volupté infinie. Ses bras pendaient au long de son corps aussi ondoyant et aussi moelleux que des écharpes dénouées. Sa tête s'inclinait de plus en plus en arrière, comme si les muscles qui la soutenaient eussent été coupés ou trop faibles pour la soutenir. Elle avait ramené ses deux petits pieds sous son jupon et était parvenue à se blottir entièrement dans l'angle de la causeuse que j'occupais, en sorte que, bien que ce meuble fût trop étroit, il y avait un grand espace vide de l'autre côté. Son corps, facile et souple, se modelait sur le mien comme de la cire, et on prenait tout le contour extérieur aussi exactement que possible. L'eau ne se fût pas insinuée plus précisément dans toutes les sinuosités de la ligne. Ainsi appliquée à mon flanc, elle avait l'air de ce double trait que les peintres ajoutent à leur dessin du côté de l'ombre afin de le rendre plus gras et plus nourri. Il n'y a qu'une femme amoureuse pour avoir de ces ondulations et de ces enlacements. Les lierres et les saules sont bien loin de là. La douce chaleur de son corps me pénétrait à travers ses habits et les miens. Mille ruisseaux magnétiques rayonnaient autour d'elle. Sa vie tout entière semblait avoir passé en moi et l'avoir abandonné complètement. De minute en minute, elle languissait et mourait et ployait de plus en plus. Une légère sueur perlait sur son front lustré. Ses yeux se trempaient, et deux ou trois fois elle fit le mouvement de lever ses mains comme pour les cacher. Mais à moitié chemin, ses bras lassés retombèrent sur ses genoux et elle ne put y parvenir. Une grosse larme déborda de sa paupière et roula sur sa joue brûlante, où elle fut bientôt séchée. Ma situation devenait fort embarrassante et passablement ridicule. Je sentais que je devais avoir l'air énormément stupide, et cela me contrariait au dernier point, quoiqu'il ne fût pas en mon pouvoir de prendre un autre air que celui-là. Les façons entreprenantes m'étaient interdites, et c'étaient les seules qui eussent été convenables. J'étais trop sûr de ne pas éprouver de résistance pour m'y risquer, et en vérité je ne savais pas de quelle voie faire flèche. Dire des galanteries et d'éviter des madrigaux, cela eût été bon dans le commencement, mais rien n'eût paru plus fade au point où nous en étions arrivés. Me lever et sortir eût été de la dernière grossièreté. Et d'ailleurs, je ne réponds pas que Rosette n'eût pas fait la putifare et ne m'eût retenu par le coin de mon manteau. Je n'aurais eu aucun motif vertueux à lui donner de ma résistance. Et puis, je l'avouerai à ma honte, cette scène tout équivoque que le caractère en fut pour moi ne manquait pas d'un certain charme qui me retenait plus qu'il n'eût fallu. Cet ardent désir m'échauffait de sa flamme et j'étais réellement fâché de ne pouvoir satisfaire. Je souhaitais même d'être un homme, comme effectivement je le paraissais, afin de couronner cet amour. Et je regrettais fort que Rosette se trompât. Ma respiration se précipitait, je sentais des rougeurs me monter à la figure, et je n'étais guère moins troublé que ma pauvre amoureuse. L'idée de la similitude de sexe s'effaçait peu à peu pour ne laisser subsister qu'une vague idée de plaisir. Mes regards se voilaient, mes lèvres tremblaient, et si Rosette eût été un cavalier au lieu d'être ce qu'elle était, elle aurait eu à coup sûr très bon marché de moi. À la fin, n'y pouvant plus tenir, elle se leva brusquement, faisant une espèce de mouvement spasmodique, et se mit à marcher dans la chambre avec une grande activité. Puis elle s'arrêta devant le miroir et réajusta quelques mèches de ses cheveux qui avaient perdu leurs plis. Pendant cette promenade, je faisais une pauvre figure, et je ne savais guère quelle contenance tenir. Elle s'arrêta devant moi et parut réfléchir. Elle pensa qu'une timidité enragée me retenait seule, que j'étais plus écolier qu'elle ne l'avait cru d'abord. Hors d'elle-même et montée au plus haut degré d'exaspération amoureuse, elle voulut tenter un suprême effort et jouer le tout pour le tout au risque de perdre la partie. Elle vint à moi, s'assit sur mes genoux plus prompte que l'éclair, me passa les bras autour du cou, croisa ses mains derrière ma tête et sa bouche se prit à la mienne avec une étreinte furieuse. Je sentais sa gorge demi-nue et révoltée bondir contre ma poitrine et ses doigts enlacés se crisper dans mes cheveux. Un frisson me courut tout le long du corps et les pointes de mes seins se dressèrent. Rosette ne quittait pas ma bouche. Ses lèvres enveloppaient mes lèvres, ses dents choquaient mes dents, nos souffles se mêlaient. Je me reculais un instant et je tournais deux ou trois fois la tête pour éviter ce baiser. Mais un attrait invincible me fit revenir en avant, et je le lui rendis presque aussi ardent qu'elle me l'avait donné. Je ne sais pas trop ce que tout cela fut devenu, si de grands abois ne se fussent fait entendre au-dessous de la porte avec un bruit comme des pieds qui grattaient. La porte céda, et un beau lévrier blanc entra dans la cabane en jappant et en gambadant. Rosette se releva subitement et d'un bond elle s'élança à l'extrémité de la chambre. Le beau lévrier blanc sautait autour d'elle allègrement et joyeusement et tâchait d'atteindre ses mains pour les lécher. Elle était si troublée qu'elle eut bien de la peine à rajuster son mantelet sur ses épaules. Ce lévrier était le chien favori de son frère Alcibiade. Il ne le quittait jamais, et quand on le voyait arriver, l'on pouvait être sûr que le maître n'était pas loin. C'est ce qui avait si fort effrayé la pauvre Rosette. Effectivement, Alcibiade lui-même entra une minute après, tout botté, tout éperonné, avec son fouet à la main. « Oh, vous voilà, dit-il. Je vous cherche depuis une heure, et je ne vous eusse assurément pas trouvé, si mon brave lévrier Sling ne nous eût déterré dans votre cachette. » Et il jeta sur sa sœur un regard moitié sérieux, moitié enjoué, qui la fit rougir jusqu'au blanc des yeux. « Vous aviez apparemment des sujets bien épineux à traiter, que vous étiez retiré dans une aussi profonde solitude. Vous parliez sans doute de théologie et de la double nature de l'âme. » « Oh, mon Dieu, non. Nos occupations n'étaient pas beaucoup près si sublimes. Nous mangions des gâteaux et nous parlions de mode, voilà tout. Je n'en crois rien. Vous m'aviez l'air profondément enfoncé dans quelques dissertations sentimentales. Mais pour vous distraire de vos conversations vaporeuses, je crois qu'il ne serait pas mauvais que vous vinssiez faire un tour à cheval avec moi. J'ai une nouvelle jument que je veux essayer. Vous la montrez aussi, Théodore, et nous verrons ce qu'on en peut faire. » Nous sortîmes tous les trois ensemble, lui me donnant le bras, moi le donnant à Rosette. Les expressions de nos figures étaient singulièrement variées. Alcibiade avait l'air pensif, moi tout à fait à l'aise, Rosette excessivement contrariée. Alcibiade était arrivé fort à propos pour moi, fort mal à propos pour Rosette, qui perdit ainsi ou crut perdre tout le fruit de ses savantes attaques et de son ingénieuse tactique. C'était à recommencer. Un quart d'heure plus tard, le diable m'emporte si je sais le dénouement qu'aurait pu avoir dans cette aventure. Je n'y en vois pas de possible. Peut-être eût-il mieux valu qu'Alcibiade n'intervint pas précisément au moment scabreux comme un dieu dans sa machine. Il aurait bien fallu que cela finît d'une manière ou de l'autre. Pendant cette scène, je fus deux ou trois fois sur le point d'avouer qui j'étais à Rosette. Mais la crainte de passer pour une aventurière et de voir mon secret divulgué retint sur mes lèvres les paroles prêtes à s'envoler. Un pareil état de choses ne pouvait durer. Mon départ était le seul moyen de couper court à cette intrigue sans issue. Aussi, au dîner, j'annonçai officiellement que je partirais le lendemain même. Rosette, qui était assise à côté de moi, faillit presque se trouver mal en entendant cette nouvelle et laissa tomber son verre. Une pâleur subite couvrit sa belle figure. Elle me jeta un regard douloureux et plein de reproches qui m'émut et me troubla presque autant qu'elle. La tante leva ses vieilles mains ridées avec un mouvement de surprise pénible et les deux sa voix grêle et tremblante qui chevrotait encore plus qu'à l'ordinaire, elle me dit « Oh, mon cher monsieur Théodore, vous nous quittez comme cela? Ce n'est pas bien. Hier, vous n'aviez pas le moins du monde l'air disposé à partir. Le courrier n'est pas venu, ainsi vous n'avez pas reçu de lettre, et vous n'avez aucun motif. Vous nous aviez accordé encore 15 jours, et vous nous les reprenez. Vous n'en avez vraiment pas le droit. Chose donnée ne peut se reprendre. Vous voyez quelle mine Rosette vous fait, et comme elle vous en veut. Ah, je vous avertis que je vous en voudrai au moins autant qu'elle, et que je vous ferai une mine aussi terrible, et une mine de 68 ans est un peu plus effroyable qu'une mine de 23. Voyez à quoi vous vous exposez volontairement, à la colère de la tante et à celle de la nièce, et tout cela pour je ne sais quel caprice qui vous a pris subitement entre la poire et le fromage. » Alcibiade jura, en frappant un grand coup de poing sur la table, qu'il barricaderait les portes du château et couperait les jarrets à mon cheval plutôt que de me laisser partir. Rosette me lança un autre regard, si triste et si suppliant, qu'il lui fallut toute la férocité d'un tigre à jeun depuis 8 jours pour n'en pas être touché. Je n'y résistai pas, et quoi que cela me contrariât singulièrement, je fis la promesse solennelle de rester. La chère Rosette n'eût volontiers sauté au cou et embrassé sur la bouche pour cette complaisance. Alcibiade m'enferma la main dans sa grande main et me secoua le bras si violemment qu'il faillit m'arracher l'épaule, rendit mes bagues ovales de rondes qu'elles étaient et me coupa 3 doigts assez profondément. La vieille, en réjouissance, huma une immense prise de tabac. Cependant, Rosette ne reprit pas complètement sa gaieté. L'idée que je pouvais m'en aller, que j'en avais le désir, idée qui ne s'était pas encore présentée nettement à son esprit, la jeta dans une profonde rêverie. Les couleurs que l'annonce de mon départ avait chassées de ses joues n'y revinrent pas aussi vives qu'auparavant. Il lui resta de la pâleur sur la joue et de l'inquiétude au fond de l'âme. Ma conduite à son égard la surprenait de plus en plus. Après les avances marquées qu'elle m'avait faites, elle ne comprenait pas les motifs qui me faisaient mettre tant de retenue dans mes rapports avec elle. Ce qu'elle voulait, c'était de m'amener, avant mon départ, à un engagement tout à fait décisif, ne doutant pas qu'après cela, il ne lui fût extrêmement facile de me retenir aussi longtemps qu'elle le voudrait. En cela, elle avait raison, et si je n'eusse pas été une femme, son calcul se fût trouvé juste, car quoi que l'on ait dit de la satiété du plaisir et du dégoût qui suit ordinairement la possession, tout homme qui a l'âme un peu bien située et qui n'est pas blasé misérablement et sans ressources, sent son amour s'augmenter de son bonheur. Et très souvent, le meilleur moyen de retenir un amant prêt à s'éloigner, c'est de se livrer à lui avec un entier abandon. Rosette avait le dessein de m'amener à quelque chose de décisif avant mon départ. Sachant combien il est difficile de reprendre plus tard une liaison au point où on l'avait laissée, et d'ailleurs n'étant nullement sûr de me pouvoir retrouver jamais dans des circonstances aussi favorables, elle ne négligeait aucune des occasions qui se pouvaient présenter de me mettre dans une position à me prononcer nettement et à quitter ces manières évasives derrière lesquelles je me retranchais. Comme j'avais de mon côté l'intention excessivement formelle d'éviter toute espèce de rencontre pareille à celle du cavalier rustique, et que je ne pouvais cependant pas, sans afficher un ridicule, affecter trop de froideur pour Rosette et mettre dans nos rapports une pruderie de petite fille, je ne savais trop quelle contenance faire, et je tâchais qu'il y eût toujours une personne tierce avec nous. Rosette, au contraire, faisait tout son possible pour se trouver seule avec moi, et elle y réussissait assez souvent, le château étant éloigné de la ville et peu fréquenté de la noblesse des environs. Cette résistance sourde la tristait et la surprenait. Par instants, il lui survenait des doutes et des hésitations sur le pouvoir de ses charmes. Et se voyant si peu aimée, elle n'était quelquefois pas loin de croire qu'elle était laide. Alors elle redoublait de soins de coquetterie, Et quoique son deuil ne lui permît pas d'employer toutes les ressources de la toilette, elle savait cependant l'orner et le varier, de manière à être chaque jour deux ou trois fois plus charmante, ce qui n'est pas peu dire. Elle essaya de tout. Elle fut enjouée, mélancolique, tendre, passionnée, prévenante, coquette, milaudière même. Elle mit les uns après les autres tous ces adorables masques qui vont si bien aux femmes qu'on ne sait plus si ce sont de véritables masques ou leurs figures réelles. Elle revêtit successivement 8 ou 10 individualités contrastées entre elles pour voir lorsqu'elle me plairait et s'y fixer. Et à elle seule, elle me fit un sérail complet où je n'avais qu'à jeter le mouchoir, mais rien ne lui réussit, bien entendu. Le peu de succès de tous ces stratagèmes la fit tomber dans une stupeur profonde. En effet, elle aurait fait tourner la cervelle de Nestor et fait fondre la glace du chaste Hippolyte lui-même. Je ne paraissais rien moins que Nestor et Hippolyte. Je suis jeune, et j'avais la mine hautaine et décidée, le propos hardi, et partout ailleurs qu'en tête à tête, la contenance fort délibérée. Elle dut croire que toutes les sorcières de la Thrace et de la Thessalie m'avaient jeté leur charme sur le corps, ou que, tout au moins, j'avais l'aiguillette nouée, et prendre une fort détestable opinion de ma virilité, qui est effectivement assez mince. Cependant, il paraît que cette idée ne lui vint point, et qu'elle n'attribuait qu'à mon défaut d'amour pour elle cette singulière réserve. Les jours s'écoulaient, et ses affaires n'avançaient pas. Elle en était visiblement affectée. Une expression de tristesse inquiète avait remplacé le sourire toujours frais épanoui de ses lèvres. Les coins de sa bouche, si joyeusement arqués, s'étaient abaissés sensiblement et formaient une ligne ferme et sérieuse. Quelques petites veines se dessinaient d'une manière plus marquée à ses paupières attendries. Ses joues, naguère si semblables à la pêche, n'en avait conservé que l'imperceptible velouté. Souvent, de ma fenêtre, je la voyais traverser le parterre en peignoir du matin. Elle marchait, levant à peine les pieds, comme si elle eût glissé, les deux bras mollement croisés sur la poitrine, la tête inclinée, plus ployée qu'une branche de saule qui trempe dans l'eau, avec quelque chose d'onduleux et d'affaissé, comme une draperie trop longue dont le bout touche à terre. En cet instant-là, elle avait l'air d'une de ces amoureuses antiques en proie aux courroux de Vénus et sur qui l'impitoyable déesse s'acharne tout entière. C'est ainsi que je me figure que Psyché devait être quand elle eut perdu Cupidon. Les jours où elle ne s'efforçait pas pour vaincre ma froideur et mes hésitations, son amour avait une allure simple et primitive qui m'eût charmé. C'était un abandon silencieux et confiant, une chaste facilité de caresse, une abondance et une plénitude de cœur inépuisables, tous les trésors d'une belle nature répandus sans réserve. Elle n'avait point de ces petitesses et de ces mesquineries que l'on voit à presque toutes les femmes, même les mieux douées. Elle ne cherchait pas de déguisement et me laissait voir tranquillement toute l'étendue de sa passion. Son amour-propre ne se révolta pas un instant de ce que je ne répondais pas à tant d'avance, car l'orgueil sort du cœur le jour où l'amour y entre. Et si jamais quelqu'un a été véritablement aimé, c'est moi, par Rosette. Elle souffrait, mais sans plainte et sans aigreur, et elle n'attribuait qu'à elle le peu de succès de ses tentatives. Cependant, sa pâleur augmentait chaque jour, et les lys avaient livré aux roses, sur le champ de bataille de ses joues, un grand combat, où ces dernières avaient été définitivement mises en déroute. Cela me désolait, mais en bonne conscience, j'y pouvais moins que personne. Plus je lui parlais avec douceur et affection, plus j'avais avec elle des manières caressantes et plus j'enfonçais dans son cœur la flèche barbelée de l'amour impossible. Pour la consoler aujourd'hui, je lui préparais un désespoir futur bien plus grand. Mes remèdes empoisonnaient sa plaie, tout en paraissant l'assoupir. Je me repentais en quelque sorte de toutes ces choses agréables que j'avais pu lui dire, et j'aurais voulu, à cause de l'extrême amitié que j'avais pour elle, trouver les moyens de m'en faire haïr. On ne peut porter le désintéressement plus loin, car j'en eusse été à coup sûr très fâché. Mais cela eût mieux valu. J'ai essayé à deux ou trois reprises de lui dire quelque dureté. Je me suis bien vite remis au madrigal, car je crains moins encore son sourire que ses larmes. En ces occasions-là, quoique la loyauté de l'intention m'absolve pleinement dans ma conscience, je suis plus touché qu'il ne le faudrait, et j'éprouve quelque chose qui n'est pas loin d'être un remords. Une larme ne peut guère être séchée que par un baiser, et l'on ne peut laisser décemment cet office à un mouchoir, fût-il de la plus fine batiste du monde. Je défais ce que je fais. La larme est bien vite oubliée, plus vite que le baiser, et il s'ensuit toujours pour moi quelque redoublement d'embarras. Rosette, qui voit que je vais lui échapper, se rattache obstinément et misérablement au reste de son espérance, et ma position se complique de plus en plus. La sensation étrange que j'avais éprouvée dans le petit ermitage et le désordre inconcevable où m'avait jeté l'ardeur des caresses de ma belle amoureuse se sont renouvelés plusieurs fois pour moi, quoique moins violents. Et souvent, assise auprès de Rosette, sa main dans ma main, l'entendant me parler avec son doux roucoulement, je m'imagine que je suis un homme comme elle le croit, et que si je ne réponds pas à son amour, c'est pure cruauté de ma part. Un soir, je ne sais par quel hasard, je me trouvais seul dans la chambre verte avec la vieille dame. Elle avait en main quelque ouvrage de tapisserie, car malgré ses 68 ans, elle ne restait jamais oisive, voulant, comme elle le disait, achever avant de mourir un meuble qu'elle avait commencé et auquel elle travaillait depuis déjà fort longtemps. Se sentant un peu fatiguée, elle posa son ouvrage et se renversa dans son grand fauteuil. Elle me regardait très attentivement, et ses yeux gris pétillaient à travers ses lunettes avec une vivacité étrange. Elle passa deux ou trois fois sa main sèche sur son front ridé, et parut profondément réfléchir. Le souvenir des temps qui n'étaient plus et qu'elle regrettait donnait à sa figure une mélancolique expression d'attendrissement. Je me taisais, de peur de la troubler, dans ses pensées, et le silence dura quelques minutes. Elle le rompit enfin. « Ce sont les vrais yeux de Henri, de mon cher Henri, le même regard humide et brillant, le même port de tête, la même physionomie douce et fière. On dirait que c'est lui. » Vous ne pouvez vous imaginer à quel point va cette ressemblance, monsieur Théodore. Quand je vous vois, je ne puis plus croire que Henri est mort. Je pense qu'il a été seulement faire un long voyage, dont le voici enfin revenu. Vous m'avez fait bien du plaisir et bien de la peine, Théodore. Plaisir en me rappelant mon pauvre Henri. Peine en me montrant combien grande est la perte que j'ai faite. Quelquefois, je vous ai pris pour son fantôme. Je ne puis me faire à cette idée que vous allez quitter. Il me semble que je perds mon Henri, encore une fois. Je lui dis que s'il m'était réellement possible de rester plus longtemps, je le ferais avec plaisir. mais que mon séjour s'était déjà prolongé bien au-delà des bornes qu'il aurait dû avoir, et que du reste, je me proposais bien de revenir, et que le château me laissait de trop agréables souvenirs pour l'oublier aussi vite. Si fâché que je sois de votre départ, monsieur Théodore, reprit-elle poursuivant son idée, il y a ici quelqu'un qui le sera plus que moi. Vous comprenez bien de qui je veux parler sans que je le dise. Je ne sais pas ce que nous ferons de Rosette quand vous serez parti, mais ce vieux château est bien triste. Alcibiade est toujours à la chasse, et pour une jeune femme comme elle, la société d'une pauvre impotente comme moi n'est pas très récréative. Oh, si quelqu'un doit avoir des regrets, ce n'est ni vous, madame, ni Rosette, mais bien moi. Vous perdez peu, moi beaucoup. Vous retrouverez aisément une société plus charmante que la mienne. Et il est plus que douteux que je puisse jamais remplacer celle de Rosette et la vôtre. Oh, je ne veux pas me faire une querelle avec votre modestie, mon cher monsieur. Mais je sais ce que je sais, et je dis ce qui est. Il est probable que de longtemps nous ne reverrons madame Rosette de bonne humeur, car c'est vous maintenant qui faites la pluie et le beau temps sur ses joues. Son deuil va finir, et il serait vraiment fâché qu'elle déposât sa gaieté avec sa dernière robe noire. Là serait le fort mauvais exemple et tout à fait contraire aux lois ordinaires. C'est une chose que vous pouvez empêcher, sans vous donner beaucoup de peine, et que vous empêcherez sans doute, dit la vieille, en appuyant beaucoup sur les derniers mots. Assurément, je ferai tout mon possible pour que votre chère nièce conserve sa belle gaieté, puisque vous me supposez une telle influence sur elle. Cependant, je ne vois guère comment je m'y pourrais prendre. « Oh, vraiment, vous ne voyez guère? À quoi vous servent vos beaux yeux? Je ne savais pas que vous eussiez la vue si courte. Mais Rosette est libre. Elle a 80 000 livres de rente, où personne n'a rien à voir, et l'on trouve fort jolie des femmes deux fois plus laides qu'elle. Vous êtes jeune, bien fait, et à ce que je pense, non marié. » La chose me paraît la plus simple du monde, à moins que vous n'ayez pour Rosette une insupportable horreur. Oh, ce qui est difficile à croire. Oh, ce qui n'est pas et ne peut pas être, car son âme vaut son corps, et elle est de celle qui pourrait être laide sans qu'on s'en aperçût ou qu'on les désirât autrement. Elle pourrait être laide impunément, et elle est charmante. C'est avoir doublement raison. Je ne doute pas de ce que vous dites, mais elle a pris le plus sage parti. Pour ce qui est d'elle, je répondrai volontiers qu'il y a 1000 personnes qu'elle hait plus que vous, et que si on lui demandait plusieurs fois, elle finirait peut-être par avouer que vous ne lui déplaisez pas précisément. Vous avez au doigt une bague qui lui irait parfaitement, car vous avez la main aussi petite qu'elle, et je suis presque sûr qu'elle l'accepterait avec plaisir. La bonne dame s'arrêta quelques instants pour voir l'effet que ces paroles produiraient sur moi. Je ne sais si elle dut être satisfaite de l'expression de ma figure. J'étais cruellement embarrassé et je ne savais que répondre. Dès le commencement de cet entretien, j'avais vu où tendaient toutes ces insinuations. Et quoique je ne m'attendisse presque à ce qu'on venait de dire, j'en restais toute surprise et interdite. Je ne pouvais que refuser, mais quel motif valable donner d'un pareil refus? Je n'en avais aucun, si ce n'est que j'étais femme. C'était, il est vrai, un excellent motif, mais précisément le seul que je ne voulusse pas alléguer. Je ne pouvais guère me rejeter sur des parents féroces et ridicules. Tous les parents du monde eussent accepté une pareille union avec ivresse.
Rosette n'eût-elle pas été ce qu'elle était, bonne et belle, et de naissance, les 80 000 livres de rente eussent levé toute difficulté. Dire que je ne l'aimais pas, ce n'eût été ni vrai ni honnête, car je l'aimais réellement beaucoup, et plus qu'une femme n'aime une femme. J'étais trop jeune pour prétendre être engagé, d'ailleurs. Ce que je trouvais de mieux à faire, c'était de donner à entendre qu'étant cadet de famille, les intérêts de la maison exigeaient que j'entrasse dans l'ordre de Malte et ne me permettaient pas de songer au mariage. Ce qui me faisait le plus grand chagrin du monde depuis que j'avais vu Rosette. Cette réponse ne valait pas le diable et je le sentais parfaitement. La vieille dame n'en fut pas dupe et ne la regarda point comme définitive. Elle pensa que j'avais parlé ainsi pour me donner le temps de réfléchir et de consulter mes parents. En effet, une pareille union était tellement avantageuse et inespérée pour moi qu'il n'était pas possible que je la refusasse, même quand je n'eusse que peu ou point aimé Rosette. C'était une bonne fortune à ne point négliger. Je ne sais pas si la tante me fit cette ouverture à l'instigation de la nièce. Cependant, je pense à croire que Rosette n'y était pour rien. Elle m'aimait trop simplement et trop ardemment pour penser à autre chose que ma possession immédiate, et le mariage eût été assurément le dernier des moyens qu'elle eût employés. La douairière, qui n'avait pas été sans remarquer notre intimité, qu'elle croyait sans doute beaucoup plus grande qu'elle ne l'était, avait arrangé tout ce plan dans sa tête pour me faire rester auprès d'elle et remplacer autant que possible son cher fils Henri, tué à l'armée, avec lequel elle me trouvait une si frappante ressemblance. Elle s'était complue dans cette idée et avait profité de ce moment de solitude pour s'expliquer avec moi. Je vis à son air qu'elle ne se regardait pas comme battue et qu'elle se proposait de revenir bientôt à la charge, ce qui me contraria au dernier point. Rosette, de son côté, fit la nuit du même jour une dernière tentative qui eut des résultats si graves qu'il faut que je t'en fasse un récit à part et que je puis te le raconter dans cette lettre déjà démesurément enflée. Tu verras à quelles singulières aventures j'étais prédestiné, et comme le ciel m'avait taillé d'avance pour être une héroïne de roman. Je ne sais pas trop, par exemple, quelle moralité on pourra tirer de tout cela, mais les existences ne sont pas comme les fables. Chaque chapitre n'a pas à la queue une sentence rimée. Bien souvent, le sens de la vie est que ce n'est pas la mort. Voilà tout. Adieu, ma chère. Je t'embrasse sur tes beaux yeux. Tu recevras incessamment la suite de ma triomphante biographie.